François Truffaut est, aujourd'hui encore, l'un de mes meilleurs souvenirs. J'avais suivi sa carrière de critique, je m'amusais de ses propos assassins, j'aimais le cinéaste, précis, cruel, attentif au temps, craquant de talent. Nous avons habité le même immeuble, nous avions le même goût pour la musique et la littérature, il paraissait indifférent, il n'était que tendresse. Revenons à 1969.
La critique est aisée et l'art difficile. Il est difficile, plutôt impossible, François Truffaut, à votre propos, de citer ce vers fameux de Destouches. Vous avez été critique et vous avez pris le risque d'être critiqué en devenant metteur en scène. Il vous est arrivé sans doute d'encenser des navets du temps où vous étiez journaliste. Ce sont là nos faiblesses qui ne sont jamais des complaisances, parfois des alibis. François Truffaut, vous avez une qualité rare, vous aimez le cinéma. Vous allez à la Cinémathèque comme un peintre va au Louvre. On vous dit sincère, je vous crois honnête, mais on croit tant de choses. Alors qu'êtes-vous en vérité, François Truffaut ?
Vous savez, je me reconnais assez bien dans ce chapeau, non ? Enfin oui, j'aime le cinéma, c'est la moindre des choses, pour, étant donné que j'en ai fait mon métier, ma raison de vivre. Et puis voilà, c'est tout. Sincère, je le suis peut-être, mais peut-être pas complètement. Je ne suis pas pour la sincérité totale en art ou dans la vie, pour des tas de raisons. Et puis voilà, honnête, j'espère l'être, oui.
François Truffaut, vous avez dit une fois, « J'étais un enfant qu'on laissait dans un coin et qui rêvait. Je le suis resté. »
Oui, c'est vrai. Je crois que certainement, c'est ce qui attire certains garçons vers le cinéma, c'est un besoin d'évasion absolue. C'est parce que la littérature est une bonne évasion, mais le cinéma est une évasion encore plus forte. Et j'ai l'impression que j'ai commencé très tôt à m'évader dans les films. Et puis finalement, on porte ce monde-là avec soi. Alors souvent, on m'identifie à mes camarades des Cahiers du cinéma, Rivette, Chabrol, Godard, etc. Et en fait, je me sens plus proche d'une autre famille qu'on n'a jamais définie, mais qui comprend Philippe de Broca ou Jacques Demy, et qui ont, je crois que nous avons ce point commun de faire du cinéma pour prolonger justement une enfance comme ça, solitaire. Parce que faire un film, c'est merveilleux de ce point de vue-là. Orson Welles a dit que c'est le plus beau jouet électrique du monde, mais c'est vrai, c'est une façon de refaire un monde à son idée. Pas forcément tel que l'on voudrait qu'il soit, mais en mélangeant ce qu'on pense qu'il est, ce qu'on voudrait qu'il soit, et en prolongeant ce monde de l'enfance.
Mais lorsque vous dites « j'étais dans un coin, j'étais un enfant, j'y suis resté », il y a une notion d'abandon.
Oh, d'abandon, j'étais un enfant solitaire, disons. Oui, effectivement, dont on ne s'occupait pas beaucoup. Je n'étais pas un enfant martyr, mais enfin, j'étais un enfant qu'on laisse un peu tomber, oui, enfin, qui se débrouille tout seul, oui.
Cause des parents ?
Oui, c'est ça, c'est le difficile et long à expliquer, mais enfin, c'était des parents à qui je reconnais maintenant le mérite de n'avoir appartenu à aucune catégorie, au fond, parce que c'était ni des bourgeois, ni des bohèmes, ni des artistes, ils étaient tout ça à la fois, et ils étaient un petit peu absents comme parents, voilà, ils étaient assez défaillants. Et c'était, disons, dans le contexte aussi de la guerre, de l'occupation, puis de la libération. Et voilà, ça m'a permis, si vous voulez, de commencer ma vie plus tôt que d'autres garçons. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois des garçons de 25 ans qui commencent, qui sortent de leurs études, etc., je me rends compte qu'ils démarrent dans la vie beaucoup plus tard. Et c'est je les vois dans le cinéma, parce que je ne vois pas d'autres personnes que des gens de cinéma. Mais je me dis finalement que j'ai eu cette chance de commencer à vivre à 14 ans, ce qui m'a donné une espèce d'avance. Alors, si bien que quand on a parlé de moi comme jeune cinéaste, j'avais l'impression d'être dans le métier depuis longtemps, parce que je m'intéressais au cinéma depuis l'âge de 11 ou 12 ans, et que j'avais commencé à gagner ma vie à 14 ans, donc j'étais...
Dans le coup.
J'étais dans le coup, et je pense que ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé sûrement.
François Truffaut, que faisaient vos parents ?
Mon père était architecte dessinateur et ma mère avait, ainsi que toute la branche maternelle, travaillé ce journal qui s'appelait Illustration, qui n'existe plus.
Et vous considérez qu'un architecte n'est pas dans un milieu bourgeois ?
Oui, en principe, il devrait l'être, mais vous voyez, comme il ne vivait que pour la montagne, l'alpinisme et le... Et, et le camping. Et il a jamais pu s'établir à son compte, si bien qu'il a toujours été architecte pour les autres. Et son but, qui est maintenant le but d'ailleurs de tous les Français, c'était de rétrécir le plus possible la semaine de travail pour partir en vadrouille à fin de semaine. Et voilà, alors je pense que non, parce que dans le quartier, ils étaient considérés vraiment comme des excentriques. Enfin, c'était le quartier d'ailleurs de Pigalle, de la rue Henri Monnier. Partir le vendredi soir, le sac au dos, c'était quand même c'était une curiosité dans le quartier.
Vous avez commencé à travailler à 14 ans. Est-ce que vous ne regrettez pas un peu de ne pas avoir fait des études ?
Si, je le regrette. Je le regrette parce que c'est un entraînement. Je comprends les choses, je me suis aperçu. Il n'y a pas longtemps que je me suis aperçu de ça. Pendant longtemps, on m'a dit que j'étais intelligent ou précoce, etc. Et puis récemment, je me suis aperçu que j'étais pas idiot, mais en tout cas, que je mettais beaucoup plus de temps que la moyenne des gens à comprendre les choses. Je m'en suis aperçu en prenant des cours d'anglais. J'ai pris des cours d'anglais derrière la Madeleine. On était 11. Et au bout de quelques jours, comme je n'arrivais pas à suivre, je me suis dit, je vais me classer. On ne faisait pas de classement. Et en écoutant les élèves comme ça, je me suis dit, je suis avant-dernier sur 11. Et à ce moment-là, ça m'a un peu vexé. Je me suis dit, au fond, je suis très lent d'esprit et ça vient probablement je n'ai pas eu assez d'entraînement avec les études. C'est les études servent à ça.
Est-ce que vous considérez aujourd'hui comme un homme cultivé ? Est-ce que vous avez travaillé tout seul ?
Non, pas cultivé, même pas autodidacte, parce que un autodidacte s'instruit tout seul. Moi, je ne me suis occupé que de cinéma, un peu de littérature parce que j'aime les livres, mais je ne me considère pas du tout comme cultivé. Je veux dire que j'ai deux petites filles, si elles me demandaient de leur expliquer quoi que ce soit sur les fusées, je serais extrêmement embêté.
Vous ne trouvez pas que le cinéma s'est un peu rétréci comme monde ?
C'est complètement rétréci, oui, c'est complètement rétréci. Oui,
mais
oui.
Vous avez pourtant envie
comme
d'en
tous
sortir.
Les Ah non, je n'ai pas envie d'en sortir, pas tellement, parce que je crois que ça a été ma force en même temps, par rapport à d'autres garçons qui arrivent à un certain âge sans très bien savoir ce qu'ils veulent. Quand je vois aujourd'hui des garçons de 17-18 ans qui sont, avant de partir pour le service militaire, j'ai beaucoup de filleuls, j'ai beaucoup d'enfants dont je m'occupe, les cas les plus dramatiques sont ceux de garçons qui ont eu une enfance préservée, disons en Suisse ils avaient des parents fortunés, ou bien même à Paris ou à Noisy-le-Grand. Mais je vois bien que les cas les plus dramatiques sont ceux des enfants qui ne savent pas du tout ce qu'ils feront dans 3-4 ans, tandis qu'un garçon, par exemple, je cite comme ça le fils d'André Bazin, qui a, comme Bazin lui-même, la passion non pas du cinéma mais des animaux, deviendra vétérinaire, c'est formidable, je vois chez lui une passion. Alors l'essentiel pour lui, c'est de passer les examens qui sont pleins de matières qui ne l'intéressent pas, mais s'il arrive à passer ses examens, et ben voilà quelqu'un qui réalise le rêve de sa vie, qui est de soigner des animaux, je trouve ça magnifique.
Une nature d'enfant, à votre avis, s'éveille à quel âge ?
Oh, c'est difficile à dire, mais enfin, il est certain que ce qui se passe entre 7 et 12 ans est capital.
À cet âge-là, vous, François Truffaut, vous saviez que vous alliez faire du cinéma ?
Ah ben non, entre 7 et 12 ans, non, mais enfin, vers 12 ans, oui.
Et vous avez marqué un creux quand même, parce qu'à 14 ans, vous avez fait une série de travaux assez bizarres.
Oh oui, j'ai travaillé à la bourse, j'ai travaillé chez un agent de change, j'ai fait un peu le gros...
Bizarre pour vous.
Bizarre pour moi, j'ai travaillé dans une maison de graines, je m'appelle Truffaut, ça n'avait aucun rapport. Mais j'ai fait différents travaux, mais quand même assez vite, j'ai rencontré Bazin justement... J'ai rencontré André Bazin, j'ai travaillé à ses côtés, à travailler culture, c'était déjà du travail de cinéma, j'avais à ce moment-là 17 ans.
À un certain moment, on disait, c'est le fils Truffaut, justement, parce que vous parlez des graines, on disait, c'est le fils à papa qui réussit dans le cinéma. Mais ça n'a pas duré, je dois dire.
Non, je crois pas qu'on ait dit ça. Non, c'est un malentendu vite dissipé.
Le cinéma, c'est quoi pour vous, François Tout ?
C'est ma vie, le cinéma, c'est... Ça a été d'abord l'essentiel de ma vie libre, disons, de mon temps libre, l'essentiel de ma vie artistique, culturelle. Je veux dire que même les livres, je les ai découverts à travers les films. C'est-à-dire que certains films m'ont donné envie de lire certains livres. Et puis ensuite, ça a été une occupation un peu de transition quand j'ai fait la critique. Et puis, c'est ma vie, je ne peux pas vous dire autre chose.
Tout à l'heure, en vous présentant, François Truffaut, je disais que vous aviez une qualité rare, vous aimiez le cinéma. Je voulais dire par là que beaucoup de metteurs en scène n'aiment pas véritablement le cinéma. Ils font du cinéma pour faire des affaires.
Oh, c'est rare, non, je crois que c'est rare. Non, je crois que c'est rare, et d'ailleurs, les affaires sont tellement mauvaises. Non, je ne crois pas que ce soit vrai, même pas pour les producteurs, vous voyez. Disons que ça a été vrai pour les producteurs, mais le métier de producteur devient tellement ingrat maintenant que ça devient une activité très désintéressée, parce que les films s'améliorent dans leur qualité, et ça devient, faire du cinéma devient une activité de plus en plus artistique et de moins en moins rentable.
Est-ce que vous considérez François Truffaut comme un bon metteur en scène ?
Oui, je crois que Je suis à l'aise là-dedans. Il est certain que je n'ai jamais eu honte de faire du cinéma. Enfin, il n'y a pas à avoir honte de faire du cinéma, mais si vous voulez, c'est important de ne pas se sentir un imposteur dans son activité. Il est certain que si je faisais quoi que ce soit d'autre, je me sentirais un imposteur. Dans le cinéma, j'ai l'impression, parce que j'y ai tellement pensé et tellement réfléchi, j'ai l'impression d'être à mon aise.
C'est-à-dire, vous vous dites tous les matins, je suis un vrai professionnel.
Non, je n'aime pas la notion de professionnel. Elle n'a rien de sacré pour moi, vous voyez. Je vois beaucoup de gens qui sont des professionnels et qui ne sont pas des artistes. Ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas non plus que je suis un artiste, ni que je suis un amateur, mais est-ce que Cocteau était un professionnel, par exemple, que j'admire tellement? Ou bien, lorsqu'on a attaqué des cinéastes comme Sacha Guitry en disant ils ne savent pas placer la caméra, je les ai toujours défendus. J'ai toujours dit l'essentiel, c'est de savoir ce qui est intéressant à filmer. C'est pas... Alors, c'est pas une question de profession, non. C'est mon univers, je me sens bien là-dedans, voilà.
François Truffaut, vous allez me dire sans doute que ce sera le prochain, mais quel est votre meilleur film?
Je les classe pas tellement, vous savez, je m'en souviens plutôt en tant que bon souvenir et mauvais souvenir, c'est-à-dire plutôt, les souvenirs sont liés plutôt au tournage, si on s'est senti bien en les faisant, si on s'est senti en forme, si il y a eu au contraire un malaise, et si, alors mes tournages les plus heureux, c'est sûrement ceux de Jules et Jim et du Le Dernier, La Sirène du Mississippi, et aussi les tournages avec Jean-Pierre Léaud.
Les films que vous faites collent toujours à des impressions personnelles?
Je ne sais pas s'ils collent, ils sont pleins d'impressions personnelles. C'est-à-dire que chaque problème, je trouve une solution en me souvenant de quelque chose, en me souvenant.
Il y a vous dans chaque film.
Il y a ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, si vous voulez. J'essaie tout le temps de faire entrer la vie dedans. Et de faire entrer la vie, c'est aussi bien de me souvenir brusquement d'un fait divers, de me souvenir aussi bien des voisins du dessus quand j'étais enfant. C'est tout ce qui peut me revenir ou ce qu'on a pu me raconter.
Vous citez Jules et Jim, vous citez La Sirène du Mississippi, mais vous ne parlez pas des 400 coups.
400 coups, c'était un bon souvenir, mais c'est le premier film. Et là, si vous voulez, c'est quand même angoissant parce que je n'étais pas sûr. J'étais sûr d'aimer le cinéma, mais je n'étais pas sûr que c'était mon univers. Je n'étais pas sûr que je me débrouillais bien dedans. Et je me disais, après avoir attaqué tout le monde, si je suis incapable, moi, de faire un film, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire que c'était quand même ma vie qui était en cause et j'étais trop inquiet pour garder un bon souvenir. Trop inquiet parce que c'était un sujet grave, parce que je dirigeais un petit garçon et que... Non, et je ne savais pas du tout ce qu'allait donner le résultat. J'ai été rassuré à partir du troisième film, à peu près.
François Truffaut, vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi? Vous aviez attaqué le Festival de Cannes à mort lorsque vous étiez critique, et ensuite vous êtes allé à Cannes, et votre film Les 400 coups a représenté la France.
Oui, on peut continuer d'ailleurs. On peut continuer, c'est-à-dire qu'après j'ai fait partie du jury, etc., etc. Il y a une longue histoire passionnelle entre le Festival de Cannes et moi. J'avais attaqué le Festival de Cannes comme journaliste parce que je trouvais qu'il était mal fait, mal organisé. Les 400 coups y est allé par décision de ministre de la Culture, Monsieur Malraux. Et non, j'étais très content que le film aille à Cannes. Il a obtenu un prix. Et puis, ce que je regrette, si vous voulez, dans mes relations avec Cannes, c'est plutôt, non pas l'année suivante, mais je crois en 64, d'avoir accepté de faire partie du jury. C'était un espèce de défi, au fond, que m'a lancé Favre Lebray, puisque je l'avais attaqué comme directeur du Festival de Cannes. Il a voulu me prouver que les choses se passaient tout à fait régulièrement et bien. Et j'ai fait partie de ce jury. C'est la chose que je regrette parce que ça a été assez triste. C'est-à-dire que c'est une expérience...
Malheureuse.
Malheureuse, mais en même temps qui m'a servi de leçon, puisque depuis, je n'ai plus jamais accepté de faire partie d'aucun jury, même pour décerner le prix de la meilleure nouvelle ou le prix du court-métrage, le prix de n'importe quoi, je n'ai plus jamais accepté.
Il est difficile pour un metteur en scène de faire partie d'un jury de cinéma?
Non, c'est pas pour un metteur en scène ni pour un jury de cinéma. C'est, je crois que, ou bien on a un tour d'esprit qui se prête à s'accommoder de l'opinion des autres, ou bien c'est justement ce qui est formidable quand on fait des films, c'est qu'on est tellement maître de tout ce qui va entrer dans un film pendant une heure et demie et qui se décide donc pendant ces trois mois de travail. On a l'habitude de prendre les décisions. Si vous voulez, ça tournerait autour de l'idée du pouvoir personnel ou non. Eh bien, dans un jury, il est extrêmement difficile de... On s'aperçoit qu'on ne parle pas, même pas la même langue, on ne parle pas de la même chose quand on parle cinéma. Je dois dire que Favre Lebret était formidablement correct. C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un coup d'éclat qui aurait consisté à démissionner, disons, le jour des délibérations, quand je voyais que tout descendait, que tout allait vers le compromis, et vers sans que personne soit malhonnête dans le jury, simplement parce qu'il n'y avait pas de point commun entre Mel Ferrer, Sophie Desmarais, Romain Gary, De Schmester, Jean Dutour et moi. Je veux dire, on ne parlait pas de même chose quand on parlait des films, et on en parlait à toute vitesse, et on passait son temps à voter, ça m'exaspérait. Et quand on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur deux films forts, ben finalement, c'est un film faible qui passait, on arrivait à un palmarès réellement de compromission. Ça correspondait exactement à ce que j'avais attaqué 3-4 ans avant, donc j'étais très déçu. Et en même temps, j'avais accepté parce que mes amis m'avaient dit « Tu vas les mettre dans ta poche, tu vas faire ce que tu veux, tu vas les convaincre tous. » Et c'est pas vrai, on peut pas convaincre des gens avec qui on n'a pas d'affinité ou avec qui on n'a jamais vécu.
François Truffaut, vous avez été un critique violent, venimeux même, je pourrais le dire. Vous avez occupé une place de choix dans la presse. Aujourd'hui, vous voilà de l'autre côté de la barrière. Votre dernier film, c'est La Sirène du Mississippi, et je crois savoir que le film n'est pas tellement bien accueilli.
Non, il n'est pas bien accueilli par la presse, il l'est très bien par le public, il se presse nombreux. Mais la presse n'est pas élogieuse, mais elle n'est pas méchante dans le dénigrement. Elle subit une espèce de malaise dans le film. Elle pense que l'histoire d'amour ne fonctionne pas bien mêlée à l'histoire policière et que je ne devrais pas faire des films d'après des romans américains, des choses comme ça.
Invraisemblance ?
C'est ça, on reproche beaucoup la vraisemblance. Et puis peut-être surtout la distribution, je crois, d'avoir donné à Jean-Paul Belmondo un rôle faible, un rôle trop sensible, enfin qui ne correspondrait pas à son physique costaud. Ce qui m'étonne beaucoup parce que moi je l'ai trouvé très sensible et intelligent, Belmondo, dans les films de Godard, par exemple À bout de souffle et Pierrot le fou. Alors je me demande, ou bien ce public n'a pas vu ces deux films-là, ou bien, je ne sais pas, je crois qu'ils ont une idée de Belmondo d'après ses films récents ou d'après les films de gangsters qu'il a pu jouer.
Qu'est-ce que vous préférez, François Truffaut, une bonne critique ou un bon public ?
Très franchement, je préfère un bon public parce que la critique, je ne dis pas qu'on l'aura plus tard, mais le jugement sur un film se porte en plusieurs temps. Vous voyez, par exemple, mon deuxième film, Tiré sur le pianiste, avait beaucoup déçu après les 400 coups. C'était une série noire adaptée avec Charles Aznavour. Et puis, peu à peu, il a au contraire eu une réputation assez prestigieuse. Il a eu du succès en Amérique et puis de nouveau en France. Même sans le revoir, je crois que les mêmes gens qui ont dit que c'était pas bien diraient maintenant que c'est bien. Alors, le jugement peut toujours être mis en question. Alors que le public, s'il n'est pas venu, au début, il ne viendra pas tellement après. Sauf à la faveur d'une reprise, par exemple, ce qui est arrivé avec la peau douce, où le public n'est pas venu du tout. Si bien que je crois que je préfère ce qui arrive avec La Sirène, c'est-à-dire une mauvaise critique et beaucoup de monde dans la salle.
Maintenant que vous êtes metteur en scène, vous estimez que la critique est utile ?
Oui, c'est-à-dire, je ne suis pas du tout contre la critique et je ne marche pas avec mes confrères qui sont contre la critique. Je trouve que c'est d'abord pas sérieux puisqu'ils se plaignent toujours de la critique quand elle est mauvaise et il faut, si on est contre la critique, en bonne logique, on doit être contre elle aussi quand elle vous encense. D'autre part, il y a un critère très simple pour savoir si on est pour ou contre la critique, je trouve, c'est de demander à n'importe qui, à n'importe quel artiste, à n'importe qui, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler tranquillement jusqu'à la fin de vos jours mais qu'on ne parle jamais de vos travaux? Et en tout cas, moi, je réponds non, parce que on a besoin de cet écho. Si vous voulez, un film est fini, sa vie publique commence, et on en reçoit les échos par ce que disent les gens, par la façon dont la publicité est faite, l'affichage, par ce que dit la presse, par les lettres qu'on reçoit, par des prix si le film va à droite, à gauche, parce qu'il y a des prix dans tous les pays. Ça fait partie de la vie du film. Moi, je n'ai pas du tout envie que la critique ne parle plus de mes films.
Dans La Sirène du Mississippi, il y a au départ une annonce matrimoniale, ensuite une correspondance sentimentale, ensuite un départ de Jean-Paul Belmondo pour Nouméa, ensuite une rencontre avec Catherine Deneuve. Une annonce matrimoniale, une correspondance sentimentale, vous pensez que ça peut faire une grande histoire d'amour ?
Je ne sais pas si vous empiétez sur le rôle des critiques, là, non. Je crois qu'il y a une grande logique dans ce début de la Sirène. Nous sommes à La Réunion, qui est une petite île de 400 000 habitants. Belmondo, il est le fils de gens qui avaient une fabrique de cigarettes, qui sont morts. Il a hérité de ça, il doit mener sa fabrique tout seul. Et comme il a un caractère un peu secret, un peu romanesque, il épouse une fille par petite annonce. Moi, ça me semble pas du tout invraisemblable.
Et c'est Catherine Deneuve qui vient de France.
Et c'est Catherine Deneuve. Non, elle vient de Nouméa.
Nouméa,
c'est
oui.
C'est elle qui vient de Nouméa. Elle vient à La Réunion. Oui. Elle vient aussi d'une possession française et elle n'a jamais vu la France. Évidemment, si vous voulez, il y a une petite insolence de la part du metteur en scène, de faire jouer par des gens aussi exceptionnels, c'est ce que vous voulez dire, des rôles aussi normaux, mais je ne suis aussi normaux, aussi enfoncé dans la banalité, peut-être.
Voilà, oui.
Mais oui, mais je crois que ça sert bien l'histoire, puisque lui, Belmondo, à mon avis, c'est un jeune homme qui peut tout jouer. Je veux dire qu'il peut jouer à un homme beau, mais il peut jouer à un homme banal, il peut jouer à un homme joyeux, il peut jouer à un homme mélancolique, il peut tout jouer, c'est le plus grand acteur d'Europe. Il est là, il a là en main une photo d'une petite brune, qui est pas mal, mais sans plus. Et puis, à la place de cette petite brune, pas mal, sans plus, il a cette blonde magnifique, c'est Catherine Deneuve. Il est aux anges, tout va bien. Il me semble que c'est un bon départ d'une fiction. Il me semble que le film serait déséquilibré si j'avais des acteurs de célébrité inégale. C'est-à-dire si j'avais Belmondo et une fille qu'on n'a jamais vue, ou au contraire, un acteur secondaire, et puis Catherine Deneuve. Il me semble que ces histoires-là, grandes histoires romanesques, disons un peu dans la tradition du cinéma américain, même si c'est traité dans un autre esprit, ça marche bien avec un couple de vedettes. Moi, je sais que le cinéma américain n'est jamais aussi grand que quand vraiment on trouvait Gary Grant et qu'en face, on mettait une grande actrice américaine, voyez. Et le cinéma américain de maintenant est moins fort parce qu'ils n'ont plus ces mythes, justement.
Oui, mais dans cette histoire, François Truffaut, vous mettez en cause la correspondance sentimentale.
Oui.
Je vois là les annonces matrimoniales, tous ces mariages qui sont faits un peu n'importe comment, qui défrisent l'amour.
Ah non, je ne suis pas de votre avis. C'est au contraire l'idée la plus forte de l'amour. Je trouve que pour mettre une petite annonce, pour se marier par petite annonce, il faut être quelqu'un de complètement absolu et d'idéaliste. C'est dit dans le film d'ailleurs. Mettre une annonce matrimoniale, vous rendez compte, il y a d'abord l'idée d'absolu, il y a l'idée qu'en cinq lignes on va décrire ce qu'on cherche, il y a l'idée de trouver son idéal, et comme on n'a pas confiance dans les rencontres quotidiennes, dans la société ou dans la rue, etc., on s'en remet. C'est une idée de perfectionniste en même temps, c'est une idée de perfectionniste, on espère le miracle, voyez. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais qui sont très, à mon avis, très romanesques.
Vous croyez que bientôt les mariages se feront par ordinateur?
Non, je ne crois pas ça, mais enfin, je crois que c'est très romanesque, l'idée de chercher une femme par petite annonce, et je trouve que c'est une idée très romanesque, et ce qui est cruel dans le livre et dans le film, enfin, dans l'histoire de la Sirène du Mississippi, c'est évidemment un type qui va se trouver épouser le contraire de ce qu'il cherchait. Elle va être à la fois plus belle que ce à quoi il prétendait, mais en même temps, elle va être le contraire.
Pour vous, François Truffaut, l'amour est la passion capitale. C'est le moteur de l'existence.
C'est pas le moteur parce qu'il y en a d'autres. Il y a des gens qui sont, je sais pas quoi, ambitieux ou bien. Mais
disons le sujet des sujets.
C'est le plus vrai, oui. C'est le plus vrai. C'est le seul, je crois, où les gens soient réellement sincères, oui.
Puis tout le monde est intelligent, et tout le monde est beau, et tout le monde est riche en amour.
Ça concerne tout le monde, c'est ça. Vous me citez, c'est ça, des phrases que je reconnais. Effectivement, ouais. Je crois que c'est le grand dénominateur commun. Oui, c'est le grand dénominateur commun. On pourrait dire en amour, il y a pas de pauvres. Je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Renoir qui disait à propos de la peinture, mais on peut dire qu'en amour, il y a pas de pauvres.
Qu'est-ce que c'est pour vous, François Truffaut, l'amour? Un mot?
Non, c'est pas un mot. C'est un sentiment, mais qui occupe plus ou moins de place dans la vie des personnes. Voilà.
Ça occupe beaucoup de place chez vous?
Je ne sais pas si c'était, on peut dire que c'est à égalité avec le cinéma, mais enfin c'est l'autre pôle, si vous voulez, étant donné que je ne suis pas social du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas d'intérêt social dans la vie, je n'ai pas envie d'occuper des fonctions ou de recevoir des distinctions, ou de, si bien qu'il y a ma vie... je ne peux pas dire professionnel, puis c'est plus qu'une profession, mais enfin, il y a ma vie de cinéma et il y a ma vie privée. Je sais que les deux marchent bien.
Mais votre vie est conditionnée par ce qu'on pourrait appeler le bonheur?
Je ne sais pas, oui. Le bonheur, je crois que c'est les femmes qui sont les spécialistes du bonheur, parce qu'elles arrivent à mettre des choses très concrètes là-dessus, alors que pour les hommes, c'est souvent abstrait.
Sur le plan du bonheur, vous pensez que les hommes sont en état d'infériorité?
Oui, parce qu'ils n'y pensent pas assez. Ils n'y pensent pas assez. Ils s'en font une idée trop vague. Je crois que dans la vie, enfin, je crois que les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie et que les femmes le savent bien.
Vous leur donnez beaucoup d'importance aux femmes.
Ben, elles l'ont, oui.
Non, mais j'aimerais vous l'entendre dire.
Je ne suis pas le seul à leur donner cette importance. Oui, je crois qu'elles l'ont.
Pour vous, une femme, c'est un bel objet ou une confidente?
Ah,
ou une
non.
Compagne?
Ben non, ni l'un ni l'autre, non. C'est également... Non, je crois que c'est comme l'amour, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie parce que c'est plus au point. Je crois que ce qui arrive de mauvais dans le monde arrive par les hommes, jamais par les femmes.
Vous êtes capable, vous, François Truffaut, de tout abandonner par amour?
Je ne sais pas, vous savez, je n'aimerais pas vous parler de moi. Peut-être, je le suis, mais peut-être moins qu'une femme, justement, puisque les femmes sont formidables dans ces circonstances-là.
Enfin, je vais vous laisser dans votre jardin secret.
Voilà.
François Truffaut, vous en êtes à un tel stade de la notoriété que même si vous faites demain un navet, ce que je ne vous souhaite pas, on en parlera quand même beaucoup.
Ah bah oui, mais là, dites, vous exprimez ma plus grande crainte. Je veux dire que j'ai toujours la peur du navet. J'ai un moment, le moment d'angoisse dans la fabrication des films, pour moi, c'est ni au moment du scénario, ni au moment du tournage. C'est un petit peu après, quand le film commence au montage et que j'en suis au premier bout à bout, il y a un stade, là je crois tous les metteurs en scène diraient la même chose, où le film est vraiment monstrueux parce que on attend cette projection du bout à bout, on se dit ah ça va enfin ressembler au film fini, et c'est pas vrai, c'est le moment où ça ressemble moins au film fini, c'est-à-dire que les rushs c'était mieux, ce qui aura après sera mieux aussi, mais le soir, la première fois où on voit le bout à bout, on rentre chez soi dans un état épouvantable. Et je sais que chaque fois, j'ai un espèce de soulagement, si vous voulez, lorsque j'ai le premier bon écho sur le film, que ce soit, en général, c'est de quelqu'un de l'extérieur que j'amène, ou bien ça peut être d'un projectionniste qui se trouve là, ça peut être de quelqu'un qui dit « j'ai aimé ça et ça et ça », je me dis « bon, bah voilà, j'ai échappé, on avait ». Alors, ce qui arrive après, c'est une question de degré, c'est plus ou moins bien, plus ou moins réussi, plus ou moins bien accueilli, mais mon désir, c'est d'échapper au navet, parce que je me souviens du temps où j'étais critique, d'avoir vu des films de certains metteurs en scène qui étaient des metteurs en scène importants, des films dans lesquels vraiment personne n'arrivait à rien sauver, et c'est terrible ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours beaucoup de choses dans mes films, c'est par peur, alors que évidemment, si le courage c'est de travailler avec très peu d'éléments, disons comme Bresson, vous voyez, avec son homme qui ouvre une porte avec une petite cuillère pendant une heure et demie dans Le Condamné à mort, c'est très courageux parce qu'il a un seul élément, tandis que moi j'ai toujours tellement d'éléments qu'il y a toujours, je me dis toujours, il y aura une scène quand même où les gens seront touchés, une scène où le dialogue les intéressera, ou bien où ils verront quand même que la nature est belle, et à tel point que très souvent mes films finissent dans la nature parce que j'ai tellement entendu cette idée, cette réflexion des gens, oh il fait beau, on va pas aller s'enfermer au cinéma. Je me dis aussi, bon, bah, ils ont été gentils, ils viennent s'enfermer au cinéma pour voir mon film, il faut vers la fin que je leur montre des extérieurs. Et c'est très rare que je finisse en intérieur. En général, la dernière bobine, je les laisse regarder la mer, la neige, n'importe quoi, mais que ça soit pour eux comme s'ils étaient allés à la campagne.
Une évasion.
Voilà.
François Truffaut, vous êtes de ceux qui vont très souvent au cinéma. Vous voyez combien de films par semaine?
Non, beaucoup moins qu'autrefois. Beaucoup moins qu'autrefois. J'en vois encore 4 ou 5 et souvent, en fait, ce sont des vieux films ou des films que je revois. Mais maintenant que les films sont devenus tellement importants, beaucoup plus intéressants qu'autrefois, pour bien suivre, il faudrait y aller à peu près 12 ou 15 fois par semaine.
En ligne de mire, pour vous, il y a Renoir, il y a Hitchcock.
Oui, mais beaucoup d'autres aussi, oui.
Par exemple, les films de Renoir, les films d'Hitchcock, vous les avez vus combien de fois ?
Il y a des films que je vais voir, vous savez, chaque fois qu'on les projette, comme un film comme Fenêtre sur cour d'Hitchcock ou un film comme Le Carrosse d'or de Renoir, si ça passe 4 fois dans l'année à Paris, je vais voir les 4 fois. Donc en tout, j'ai dû les voir 25-30 fois. Et puis je connais tous les démarrages de musique, je peux même reconnaître la copie. Je dis tiens, c'est la copie qui est passée l'année dernière au Ranelagh parce qu'il y a une rayure sur telle bobine. Mais seulement pour ça, pour un groupe de films, un noyau de films que j'aime énormément. Et puis, voilà, mais ce qui m'est épargné aujourd'hui, c'est les mauvais films, puisqu'il y en a tellement de bons, j'ai pas besoin d'aller voir les mauvais. Les mauvais, j'en entends parler, mais je ne vais pas les voir.
C'est le bon metteur en scène qui parle, là, ça n'est plus le critique venimeux.
Ah, mais jamais, c'est vous qui dites que j'étais venimeux. Moi, je considère que j'ai jamais été venimeux, j'étais un critique sévère.
Disons que vous étiez agressif. Mais ça plaisait d'ailleurs.
J'étais sévère, j'étais un critique, oui, dur, à une époque où les films étaient beaucoup moins bons. Vous savez, c'était dur de trouver dans l'année 3-4 bons films français.
Vous pensez qu'il y a eu progrès dans le cinéma ?
Bah, énormément. Il y a tous les pays qui n'envoyaient aucune production intéressante, qui maintenant font des films formidables, comme les Yougoslaves, les Tchèques. La nouvelle vague n'a pas été un phénomène français, c'était un phénomène absolument mondial. Il y a des films de tous les pays qui arrivent, et encore, il y a malheureusement une énorme production qu'on ne voit pas, par exemple la production italienne, la production japonaise, on ne voit pas les films. Mais je suis certain qu'il n'y a jamais eu autant de films intéressants à voir que maintenant.
Tout à l'heure, nous parlions des acteurs, et vous disiez que Belmondo était l'un des meilleurs acteurs du monde. Mais vous avez réuni dans La Sirène du Mississippi deux grands noms, c'est Belmondo et Catherine Deneuve, car à mon avis, Catherine Deneuve est la super vedette de demain. Déjà, elle est bien installée, il n'y a pas de problème pour elle. Je me demande si on ne se trompe pas un peu, car je n'aime pas qu'on en fasse beaucoup de parallèles, qu'elle a quelque chose de Grace Kelly.
Si, c'est vrai, on est obligé d'y penser un peu, oui. Ce qui vient probablement de la stylisation de son apparence, c'est-à-dire qu'elle est, si vous voulez, elle est idéalisée presque comme un dessin, comme une bande dessinée. Il y a une petite scène dans La Sirène du Mississippi où elle est en costume colonial, avec un petit chapeau colonial, et elle va à la banque à la Banque de la Réunion avec Belmondo, et là, je crois presque tout le monde dans la salle pense à Grace Kelly, qu'on a vu comme ça dans Mogambo, de John Ford, ou dans... Il y a sûrement ce point commun-là. Enfin, je trouve que la comparaison avec Grace Kelly est meilleure que la comparaison avec Garbo.
Je ne voudrais pas faire de l'hebdomadaire, mais vous avez de la tendresse pour Catherine Deneuve.
Oui, beaucoup, oui.
Tendresse de comédien.
Oui, enfin, vous savez, quand on... de toute façon... On travaille avec du réel dans le cinéma, et moi j'ai toujours à la fin de mes films, sauf si ça se passe mal, ce qui peut arriver aussi, mais j'ai toujours un sentiment de reconnaissance énorme pour les gens qui ont rendu concrètes des idées abstraites qui étaient les miennes avant le tournage, et qu'il s'agisse des femmes ou des hommes, je veux dire qu'il s'agisse de Jean-Pierre Léo ou de Catherine Deneuve, donc effectivement, je trouve formidable. Je suis très content quand j'ai le sentiment, à la fin du travail, que j'ai une chose qui était meilleure que sur le scénario, ou plus vivante, ou plus vraie, ou plus belle. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour elle et aussi pour Belmondo.
Donc pour vous, il y a une comédienne qui s'appelle Catherine Deneuve et une star qui s'appelle Brigitte Bardot, par exemple.
Je ne sais pas cette différence de star. Je ne sais pas sur quoi on l'a fait. Est-ce que c'est la presse qui différencie une comédienne d'une star? Je ne sais pas. Il est certain que le nom de Brigitte Bardot reste attaché, bien qu'ayant commencé plus tôt, à un moins grand nombre de bons films. Moi, j'ai aimé Brigitte Bardot, je crois, trois fois. Je l'ai trouvée bien dans « Et Dieu créa la femme », le premier film de Vadim. Je l'ai trouvée très bien dans « Cas de malheur », le film d'Autant Lara. Et très bien dans « Le mépris » de Godard. C'est les trois souvenirs d'elle que j'ai.
Autres, c'est l'oubli.
Les autres, c'est l'oubli, oui, ce sont des films que je n'ai pas eu envie de revoir. Et tandis que Catherine, je crois, a un meilleur... peut-être elle est plus cinéphile, enfin, je crois qu'elle a un instinct meilleur pour le choix des films, ou peut-être qu'elle a plus de chance, mais il me semble que son nom sera attaché à davantage de bons films.
François Truffaut, maintenant, vous sacrifiez quand même au culte de la vedette. Vous y êtes arrivé.
Non, absolument pas. Vous savez, c'est... je dirais pas qu'Aznavour était une vedette quand j'ai fait Le Pianiste, mais il était quelqu'un de très... il était quelqu'un de très célèbre, et c'était même curieux de se promener avec lui dans la rue, parce que je me suis rendu compte que la célébrité d'un chanteur est beaucoup plus envahissante que celle d'un acteur. C'est-à-dire, au moins, un acteur, il y a une certaine distance, il y a un certain respect, tandis que le chanteur, Aznavour, c'était vraiment les gens lui tapaient sur le dos, et les types lui disaient, voilà le type qui fait pleurer ma femme. Enfin, c'était devenu très, je lui disais, d'ailleurs, c'est pas tout seul. Eh bien, non, il n'y a pas de règle. Vous savez, pour moi, je commence dans 8 jours un film avec un petit garçon gitan qui n'a jamais tourné et des fermiers de l'Auvergne. Je veux dire qu'il n'y a pas... Il y a des sujets, si vous voulez, La sirène du Mississippi, c'est un film, évidemment, qui nous entraîne à 14 000 km de Paris avec un tournage qui ne serait pas logique sans vedette de toute façon, sans des noms connus, vous voyez, parce que c'est un grand roman, sans des grands moyens, enfin, il y a une logique de l'ensemble. Mais lorsque l'année dernière, je faisais Baiser volé, c'était un petit film qui devait coûter à peu près 5 ou 6 fois moins que La sirène, et j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Je veux dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de loi là-dessus, il n'y a pas de loi, enfin, pas de loi pour moi. La seule loi, c'est l'envie que j'ai de faire un sujet ou non.
François Truffaut, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui votre nom peut être inscrit à égalité en haut d'une affiche que ceux de Belmondo et de Catherine Deneuve? Je veux parler de la supériorité du metteur en scène qui s'affirme de plus en plus aujourd'hui.
Mais je ne le crois pas, parce que ce qui est important, c'est quand même ce qui est sur l'écran. Jusqu'ici, c'est quand même les vedettes qui sont sur l'écran. On flatte beaucoup les metteurs en scène aujourd'hui en leur disant, vous savez maintenant...
Vous flattez un peu vous-même, non?
Non, bon, moi, je ne me flatte pas.
Non, les metteurs en scène, d'une manière générale.
Ah, je ne sais pas. On dit, vous savez, aujourd'hui, les gens vont au cinéma voir un film d'un tel, un tel. Ce n'est absolument pas vrai. Ils vont voir... le noyau de public qui se déplace sur le nom du metteur en scène est très petit. Et je crois que... Le titre compte aussi, les photos devant la salle comptent aussi, et je me souviens bien, puisque c'est récent, c'est il y a un an, la sortie de Baiser volé, il n'y avait personne dans la salle la première semaine, et puis le film a peu à peu trouvé son public.
Que c'était dommage.
Mais il était très mal parti, or c'était, bon, bah, c'était un film François Truffaut avec Jean-Pierre Léo, mais le titre n'était pas accrocheur. Le titre, vous savez, un titre c'est une chose qui devient bien après. Si le film a du succès, on dit « Ah, c'était un bon titre ». S'il ne marche pas, on dit « Oui, c'était à cause du titre ». Mais on parle aussi de la chaleur.
On dit le dernier Truffaut, on dit le dernier Godard, on dit le dernier Chabrol.
Dans la presse, mais de là à rembourser le prix d'un film, vous savez, non. Moi, je continue à croire au cinéma, et sans regret d'ailleurs, je continue à croire au cinéma comme distraction populaire. Je continue à croire que les gens choisissent en se baladant sur les boulevards, et que ce titre-là leur plaît, ils rentrent, ils regardent les photos, ah oui, ça a l'air bien. Voilà, pas dans le cas Belmondo de Neuve, évidemment que là c'est l'affiche qui fait rentrer les gens, et je peux dire que malgré que la critique soit mauvaise, elle pourrait même être 10 fois plus mauvaise, et le film pourrait être 10 fois plus mauvais, je crois qu'il y aurait quand même du monde dans la salle. Alors la critique dans certains cas peut aider, justement comme elle l'a fait pour Au baiser volé, quand le film est petit. Mais le nom du metteur en scène, vous savez, regardez le dernier film de Bergman, je trouve que c'est un des plus grands metteurs en scène du monde actuellement, c'est en tout cas celui que je préfère pour la qualité, l'égalité de sa production. Ben, s'il fait un film sur la guerre comme La Honte, personne n'y va, et s'il fait un film sur l'amour comme Le Silence, tout le monde y va. Il y a quand même la valeur attractive du sujet qui reste plus forte que le nom du metteur en scène.
Donc pour qu'un film marche, il faut une vedette à tout prix.
Non, et la vedette peut être le titre, la vedette peut être le bouche à oreille, si tout le monde dit « regardez Z » aussi, a démarré faiblement, et puis la rumeur de bouche à oreille a dit « c'est formidable ». La vedette peut être le film lui-même, mais alors là, il faut le temps que ça se sache.
Est-ce que vous considérez comme un ancien de la nouvelle vague, toujours ?
Oui, enfin, je ne me considère pas, vous savez, je suis un des 400 metteurs en scène français, vous pouvez pas me mettre, vous pouvez me classer si vous voulez, mais ne me demandez pas de me classer, je ne le ferai pas. Effectivement, j'appartiens à ce début de la nouvelle vague des années 60, qui a commencé en France, qui a continué à l'étranger. Alors, voilà.
Vous avez apporté beaucoup au cinéma, à votre avis ?
Je ne sais pas, c'est pas une question pour moi aussi, c'est une question pour un historien du cinéma, un critique du cinéma, je ne sais pas. Moi j'ai apporté mon son de cloche, si vous voulez. Il y a cette idée de qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, il fallait entendre ma cloche, voilà.
Eh bien, nous l'avons entendu. François Truffaut, vous n'êtes pas un esprit simple et vous ne vous considérez pas non plus comme un intellectuel. C'est dur de se placer entre ces deux extrêmes.
Ah oui, c'est absolument vrai, oui. Et comme j'appartenais à la rédaction des Cahiers du cinéma... les gens me prennent souvent à partie, ils me disent « Mais alors pourquoi les Cahiers du cinéma sont tellement difficiles à comprendre ?» et tout. Et je leur dis « Mais moi, je suis le premier à ne pas comprendre ces articles. » Mais je les respecte, ce sont des jeunes universitaires qui font leurs premières armes. Ils apprennent à écrire en écrivant, et on a le droit d'apprendre à écrire en écrivant. C'est bien ce qui m'est arrivé aussi au journal Art. Mais il faut bien savoir dans la vie ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il faut savoir la force dont on dispose. Et je trouve injuste de... Il ne faut pas se poser à l'intellectuel si on n'est pas l'intellectuel.
Enfin, le principal pour vous, c'est d'être compris.
C'est ça. C'est ça. Ça me donne, si vous voulez, cette chance que je suis effectivement plus près, peut-être, du public. Enfin, je me fais comprendre assez facilement.
Vous êtes pour un cinéma populaire ?
Oui. Je crois quand même que le cinéma est populaire par rapport aux autres formes d'art. Enfin, il est plus sain. Il est plus sain, je crois, que la peinture, que la musique, justement à cause de ça, parce que je trouve qu'il ne devrait pas se couper de ses racines populaires. Enfin, j'aime bien l'idée qu'un film, ne doit pas être idiot, mais qui puisse être compris par tout le monde. Enfin, je n'aimerais pas faire un film pour lequel il faudrait distribuer une notice explicative à l'entrée du cinéma. Ça me semblerait. J'aurais l'impression que ce n'est plus. Il y a quelque chose qui ne va plus.
Certains disent qu'il faut agir ainsi avec les films de Godard.
La notice. C'est différent parce que Godard, il a son vrai public, si vous voulez. Il est le premier cinéaste des étudiants. Il est le cinéaste, c'est absolument... Et peu à peu, si vous voulez, son public s'est rétréci puisque ses films sortent maintenant plutôt dans les salles au Quartier Latin. Il est le premier cinéaste qui ne profite pas du malentendu parce que c'est vrai qu'un film... Mais enfin, c'est vrai aussi de toutes les œuvres d'art. Je veux dire, un livre... peut-être sera vendu à 30 000 exemplaires, mais en réalité, il ne concernait que 3 000 personnes, et ça arrive aussi avec les films. Eh bien, je vois ça, je vois les choses comme ça pour Godard. Il est le premier cinéaste des étudiants.
Vous aimez bien sûr le cinéma. Vous me disiez tout à l'heure que vous ne viviez que pour le cinéma, mais par exemple, la musique, la peinture, ce sont quand même des climats qui vous sont agréables.
Oui, mais enfin, vous savez, je n'y connais rien. Je porterai jamais de jugement sur un tableau, sur la musique. Vraiment, je ne connais pas la musique. Je m'efforce de faire faire attention parce que il faut déjà de la musique dans les films. Donc ça, peu à peu, j'éduque mon oreille certainement, mais la peinture, je ne la connais pas du tout. Non.
Vous pensez que pour aimer, il faut connaître ?
Oui, je crois, oui. On peut aimer comme ça, par impulsion, mais en tout cas, il ne faut pas connaître pour aimer, mais il faut connaître pour parler. Moi, je trouve que ce n'est pas bien de parler de choses qu'on ne connaît pas. Enfin, je ne participerai jamais à une conversation pour ou contre Picasso, pour ou contre la peinture abstraite, pour ou contre je ne sais pas quoi. Vous voyez, ça, non, je suis quand même respectueux à l'égard de gens dont c'est la vie, entière.
Enfin, vous aimez la littérature, mais est-ce que vous ne l'aimez pas parce que vous recherchez sans arrêt des sujets ?
Ah non, pas du tout, non, 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 non. Non, non, c'est vrai qu'il y a un moment, évidemment, quand on fait du cinéma, on a des lectures un petit peu moins désintéressées, parce que d'abord, on est obligé de lire beaucoup de choses que les gens vous envoient, des scénarios, et des... Quelquefois, j'ai une espèce de révolte contre tous ces scénarios qui arrivent. Je me dis, mais comment? Alors, à cause de ça, je pourrais jamais relire l'éducation sentimentale, je me fâche. Mais en même temps, quand j'ai un peu de repos et que je me plonge dans des livres, c'est de façon désintéressée. C'est en sachant qu'on ne peut pas faire un film avec ça. Je veux dire, quand j'ouvre Proust, je n'arrive pas à avoir les 15 jours pour le lire dans l'ordre chronologique, mais j'ouvre de temps en temps un volume comme ça. Je sais très bien que c'est impossible de le faire au cinéma et que c'est pour mon plaisir à ce moment-là.
Proust, c'est votre auteur de chevet?
Oh non, Proust, j'aime beaucoup Flaubert aussi. Enfin, je ne lis que des auteurs français, certainement. Je n'aime pas beaucoup la littérature traduite, à part des choses de Tchekhov, mais. C'est ça, c'est Proust, c'est Flaubert, ou alors c'est des écrivains plus récents, plus modernes, comme Queneau, Liberty.
François Truffaut, avez-vous le respect du public, du spectateur?
Oui, j'ai le respect du spectateur, mais je n'en ferai pas une montagne parce que je crois que tout le monde défend sa conception du cinéma au nom du respect du public. Vous voyez, vous avez des gens qui font des films que je n'aime pas et qui se défendent en disant c'est parce que je respecte le public. Dire que le cinéaste le plus confidentiel ou le plus commercial, les deux revendiquent le respect du public. Donc le respect du public, il est à tout le monde. Je n'ai pas vu encore un type assez courageux pour dire, moi, j'emmerde le public. Et le faire, en fait, non.
Si José Benazeraf, peut-être.
Mais non, je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Si on lui disait, écoutez, on va reprendre votre film, on va mettre les bobines dans un autre ordre, il protesterait, il ne veut pas.
François Truffaut, les spectateurs doivent-ils être proches des personnages que vous leur présentez?
Ah non, c'est à moi de m'approcher. C'est-à-dire que le public, les spectateurs, ils sont anonymes, ils sont là, dans l'ombre, et c'est à moi de les troubler. Et c'est vrai que ça m'intéresse énormément. C'est-à-dire que mon travail, et c'est peut-être une des raisons aussi du malentendu de La Sirène, pas du malentendu avec le public, puisque pour moi, jusqu'à nouvel ordre, le film est très public, mais du malentendu avec la critique, c'est que je me fais très bien comprendre lorsque je fais un film très près de la vie, comme Les 400 coups, Baiser volé. Je me fais moins bien comprendre quand je prends des thèmes américains avec la mort, avec même des assassinats ou avec des détectives, comme Tirer sur le pianiste ou La mariée était en noir ou La sirène, parce que je traite ces films-là, qui sont, disons, des sujets exceptionnels, je les traite exactement de la même façon que Les 400 coups, Baiser volé, c'est-à-dire en obligeant les spectateurs à croire que c'est eux qui sont tout proches des personnages et qu'ils pourraient très bien, eux aussi, un jour se trouver tuer quelqu'un. Et c'est le traitement familier de ce matériel dramatique qui, quelquefois, crée un malaise. Mais si vous voulez, c'est pas une chose que je regrette, c'est une chose qui est consciente de ma part et que je veux imposer.
François Truffaut, La peau douce, c'était l'adultère. Jules et Jim, c'était les relations qu'on pourrait appeler triangulaires. La sirène, c'est le couple, mais partout, c'est la femme.
Oui, parce que je m'intéresse pas aux hommes, vous savez, je ne m'intéresse pas aux hommes les uns par rapport aux autres. Je trouve que les hommes sont intéressants quand ils ont des histoires de femmes. Vous voyez, si un homme me parle de son bureau, ça me barbe. S'il me parle de ses difficultés avec sa femme ou avec sa maîtresse ou je ne sais pas, ça m'intéresse tout d'un coup prodigieusement. Parce que je trouve que la vie sociale des gens est ridicule et que leur vie privée est passionnante.
Vous partez du principe qu'une femme peut mettre un homme en dehors de la société.
Oui, bien sûr. Ben ça, les journaux en sont pleins.
C'est votre climat favori.
Oui, enfin, disons que ce sont les histoires qui m'intéressent. L'idée qu'un homme a tel poste et que l'année prochaine il sera peut-être chef de bureau, je vous dis, ça m'est complètement égal. Mais s'il est amoureux de la dactylo, ça me passionne.
Nous avons parlé d'un certain nombre d'acteurs, François Truffaut, mais s'il fallait parler de la féminité, et je parle de la féminité majuscule, vous donneriez quel nom?
Ah, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne comprends pas bien votre question.
Quelle est pour vous la vedette qui est véritablement féminine, avec un grand F?
Ben, je n'aime que celles qui sont féminines, vous savez. Enfin, une femme qui n'est pas féminine, c'est un cauchemar. Hein? C'est encore pire qu'un homme. Je ne sais pas, je crois que l'actrice française la plus féminine, c'est sûrement Jeanne Moreau.
Pas Catherine Deneuve.
Ben, elle l'est aussi.
Non, mais simplement une différence que vous devez faire vous-même.
Elle l'est aussi, mais comme dans la. Elle est, si on attache à l'idée de féminité, vous voyez, l'idée de féminité, elle est plus facile à raccorder avec des femmes qui auraient pu vivre à d'autres époques. C'est-à-dire que Jeanne Moreau, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut l'imaginer au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle, tandis que Catherine, je crois, est une fille vraiment d'aujourd'hui, complètement. Malgré le physique romantique qui marche très bien avec des histoires comme Meyerling et tout ça, mais sa voix, sa façon d'être, sa façon de parler, je crois, est complètement moderne. Pour moi, Catherine Deneuve, c'est quelqu'un nettement d'après la Libération même. Vous voyez, elle est complètement située dans le XXe siècle, elle est située par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Tandis que Jeanne Moreau pourrait être une femme de l'avant-guerre, elle pourrait être une femme du cinéma muet, elle pourrait aussi être une femme des époques passées.
François Truffaut, que restera-t-il du cinéma d'aujourd'hui lorsque les affiches auront jauni? Quels sont les films qui resteront?
Je ne sais pas. Je crois que les films les plus simples et les plus vivants, les films qui auront été plus intéressants par ce qu'ils montraient que par la façon dont ils le montraient. Et ça, je crois que c'est vrai de tous les arts.
Je crois savoir, François Truffaut, que pour vous, la qualité la plus drôle, c'est la mauvaise foi.
Oui, la mauvaise foi me fait rire énormément.
Pourquoi? C'est votre climat?
Non, je ne sais pas. C'est parce que c'est la mort de la logique quand... Quand quelqu'un vous fait une réponse de mauvaise foi, la discussion ne peut plus continuer, donc elle part sur, à mon avis, elle ne peut plus partir que sur le rire.
Merci François Truffaut.